Well, it seems to me that everybody speaks about Europe all the time today.
L'Europe de peuple.
L'Europe, c'est à la fois trop petit et trop grand.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut changer ça?
I fucking love Europe.
Full Continental épisode 40. À Malte et en Allemagne, des moins de 30 ans à l'assaut du Parlement.
Full Continental. Caroline Gillet sur France Inter.
Je pense que je devais être dans l'avion, assise sur un énorme réacteur qui consomme beaucoup de kérosène, quand j'ai lu pour la première fois un article qui parlait de Minatoloo et de la révolution qu'il tentait à Malte en faveur des droits LGBT et du droit à l'avortement. Quand j'ai fait des recherches, je suis tombée sur cette vidéo. Il intervenait sur un panel du European News Forum et répondait à la question « Pourquoi est-ce que tu es candidat aux élections européennes ?» Mina, sur cette vidéo, dit « Je voyais les listes à Malte et jamais aucun candidat ne m'intéressait. Aucun ne me donnait envie de voter. » Alors je me suis demandé à quel genre de candidat j'aurais eu envie de donner mon vote. Et je me suis rendu compte que c'était pour un candidat comme moi. Quand il dit ça, je pense que Mina fait référence au fait qu'il est très jeune, il a 27 ans, et aussi qu'il est queer et de genre non-binaire. Qui veut dire qu'il ne se sent ni homme ni femme. Et comme la grammaire française tient absolument à tout féminiser ou masculiniser, Mina m'a proposé de le genrer au masculin. Mais donc c'est vrai que des candidats LGBT, il n'y en a pas beaucoup au Parlement européen. Par ailleurs, dans la dernière mandature, seuls 2% des parlementaires avaient moins de 30 ans. L'âge moyen était de 53 ans et seulement 37% étaient des femmes.
Comment est-ce qu'on peut attendre de politiciens qui ne représentent qu'un seul groupe de la population, qu'ils fassent des lois qui soient justes pour nous tous?
Alors Mina s'est présentée, avec les Verts. À Malte, le parti écolo existe depuis seulement 1995, mais les Verts n'ont jamais envoyé de députés au Parlement, où Malte n'a que 6 sièges, qui depuis toujours sont partagés par les deux mêmes partis, de droite et de gauche. Alors il paraît qu'au lendemain des élections, une des questions les plus demandées à Google, c'est quand le second tour? Nous, on a décidé de passer des coups de fil à ceux qui savaient qu'il n'y en avait qu'un, deux tours, qui ont participé à bousculer les partis traditionnels et qui, cette semaine, ont fêté leur succès. En Allemagne, les Verts sont arrivés second. En France, pour la première fois, EELV est devenu le premier parti des 18-34 ans. On a rappelé Claire, qui militait pour Extinction Rébellion, et à Malte, où les enjeux concernent des îles, des tunnels, des voitures, mais aussi l'avortement, on a donc appelé Mina. Ce sera 40 minutes avec une militante, un candidat et deux élus, une dans une commune, l'autre au Parlement européen. Tous ont trois points communs, ils ont moins de 35 ans, ils militent chez les Verts, et ils ont trop fait la fête.
Yes. Hi.
On commence par l'élue européenne, vous la connaissez peut-être, c'est Terry Rehnquist. Et justement, Terry, elle était la plus jeune parlementaire de la dernière mandature. Elle a aujourd'hui 32 ans, elle en avait 27, l'âge de Mina, au moment où elle a été élue pour les Verts allemands. Je lui avais parlé il y a quelques mois pour l'émission, là quand je l'ai rappelée, alors non, elle n'était pas au Parlement à Bruxelles, elle était dans une gare, elle revenait de Düsseldorf, sa ville natale, où elle avait donc fait la fête.
Because I've been speaking to lots of Greens this morning and everyone is hangover.
I'm okay. I've already gotten over it.
Elle me dit ça va, qu'elle a déjà récupéré, et j'ai oublié de lui demander comment elle avait fait. Elle me dit qu'elle savait déjà, avant les résultats, qu'elle allait sans doute pouvoir faire un second mandat pour les Verts au Parlement, mais qu'elle est très heureuse du score de son parti au niveau européen et aussi dans sa région, et qu'elle sent bien que c'est beaucoup de responsabilités également. J'avais demandé, avant de l'appeler, si mes collègues de bureau avaient une question pour elle. Et Mathilde, qui est en stage et qui a 20 ans, voulait savoir, est-ce qu'avoir plus d'élus verts, ça va vraiment changer les choses? Terry répond, oui, je dirais que surtout ce qui va changer, c'est qu'il n'y a plus de grande coalition gauche-droite. Les dynamiques vont changer. On espère avoir plus d'influence sur les questions de changement climatique, sur les droits sociaux, la démocratie, les droits humains. Et peut-être qu'avec les négociations pour la direction de la Commission, on va pouvoir bouger les lignes. Elle dit aussi, c'est vrai qu'en France et en Allemagne, l'extrême droite fait de très bons scores, mais ils ne représentent que 10 à 15% du Parlement. Alors il ne faut pas les laisser fixer l'agenda. On doit se concentrer sur le travail, la politique, le climat, la justice sociale. Si on se concentre sur ce qu'ils disent, on les rend plus forts. Je lui demande c'est quoi, pour elle, son gros chantier de cette mandature. Elle répond, personnellement, je voudrais continuer à travailler sur les questions de chômage, de salaire minimum. J'espère qu'on va arriver à bouger les lignes. On a vu aussi, avec les résultats du Brexit, qu'il y a des inégalités croissantes et qu'il va falloir qu'on travaille là-dessus très urgemment. Pour conclure, je lui demande si elle connaît Minatoloo.
Oui, dit-elle, on s'est croisés aussi bien sur le mouvement vert que sur les questions LGBT et je suis super impressionnée par son travail à Malte. Mina Tolu, on l'entendait donc tout à l'heure, et lui non plus lundi matin, au lendemain des élections européennes, n'avait pas beaucoup dormi.
Oui, on était au Counting Hall depuis 6h30 dimanche jusqu'à 3h30, 4h ce matin.
Mina Tolu, la première fois qu'on s'est parlé, c'était bien avant les élections. C'était le jour de la clôture des listes de candidatures aux élections européennes.
Et là, ça commence à devenir stressant. Cette semaine, il y a eu la clôture des nominations des candidats pour Malte. Donc ça y est, la liste finale des candidats est sortie. Et je suis dessus. Oui, maintenant, il se passe tous les jours quelque chose pour la campagne.
Mina a les cheveux noirs et très courts, il a des toutes petites lunettes et il a un sourire complètement craquant. Dans sa chambre, quand je l'appelle, j'aperçois derrière lui des dessins et des coloriages. Il me dit qu'il remplit ça, les coloriages, quand il est stressé. Et donc il fait du dessin, j'en ai vu sur son compte Instagram, qui en 2014, lorsqu'il vivait encore à Berlin, est rempli de photos arty de la ville le matin, la pénombre, les graffitis. Et puis il arrête les photos noir et blanc et en 2016, on voit davantage de posts autour du combat LGBT, avec notamment plein de drapeaux multicolores. C'est à ce moment-là que Mina a participé à un débat avec Emma Watson, la jeune comédienne, Hermione dans Harry Potter, devenue très engagée sur les droits des femmes.
So we've heard so much already, but the story that I want to close with is Mina's, because I think you have the most important lesson of all to impart, which is that challenging stereotypes starts within yourself.
Et puis plus récemment, son mur Instagram se couvre de photos de sa candidature avec les Verts d'Alternative démocratique. Mina pose lors d'événements auprès de grandes figures du mouvement vert européen, Ska Keller et aussi Terry Renke qu'on entendait tout à l'heure. Et il faut dire que Mina a été très actif et puis qu'il s'est positionné sur des questions sensibles, notamment sur la question de l'avortement, on y reviendra, mais c'est toujours totalement interdit à Malte. Et les résultats de Mina aux élections sont peut-être liés à sa prise de parole sur ce sujet. Mais d'abord, je demande à Mina quels sont les dossiers sur lesquels son parti travaille en ce moment à Malte.
Un des dossiers en ce moment au niveau national, c'est que Malte a plusieurs îles. Et les deux îles les plus importantes sont Malte et Gozo, où les gens vivent. Et là, il y a cette proposition du gouvernement de construire un tunnel pour relier l'île de Malte à celle de Gozo. Mais ils n'ont pas sorti d'études sur les impacts environnementaux, sur ce que fera le tunnel, sur l'environnement marin et aux autres îles. Ça va impacter des aires écologiques qui devraient rester préservées. Et juste la semaine dernière, à la fois le gouvernement et l'opposition ont voté pour lancer le projet du tunnel. Encore une fois, sans laisser personne avoir accès aux études d'impact environnemental.
Mais donc par exemple pour le tunnel, ce serait quoi ta proposition ?
Plus de ferries. En ce moment, tous les jours sur nos routes, il y a 80 nouvelles voitures qui sont enregistrées chaque jour. Des véhicules privés. Et donc on a de plus en plus de blocages et d'embouteillages. Il suffit qu'il y ait une seule voiture qui tombe en panne sur l'une des routes principales de Malte, et c'est tout le trafic qui s'interrompt partout. Et à la place d'avoir une solution sur le long terme, à la place d'investir dans les transports en commun et de mettre en place de meilleures infrastructures, ils se contentent d'adapter les routes aux voitures.
Mina observe l'île de Malte depuis un positionnement un peu particulier. Il est né en Italie d'un père italien, d'une mère maltaise. Ensuite, il a grandi à Malte, il a fait un Erasmus en Suède et il a travaillé ensuite 4 ans à Berlin avant de choisir de revenir à Malte pour s'engager politiquement. Parce que c'est là, sur cette île très catholique, qu'est né son engagement. Mais en fait, c'est quoi Malte ? Mina me raconte que souvent, quand il vivait en Allemagne, on situait l'île en Espagne ou en Grèce. Voilà un petit récap pour ceux qui auraient dit pareil. Malte, c'est un archipel de la Méditerranée, oui, de 8 îles, qui a obtenu son indépendance du Royaume-Uni en 1964 et qui a adhéré à l'Union européenne après un référendum en 2004. En ce moment, à Malte, on écoute ce tube-ci. Le clip de ce morceau semble tourner dans un décor qui ressemble un peu à une église. Ce qui se dit, c'est que Malte serait devenue catholique après le naufrage de Saint-Paul sur une de ses îles aux environs de l'an 60. Depuis les années 20, il y a de plus en plus de mouvements contre le pouvoir de l'église et aujourd'hui, plus de 50% de la population reste pratiquante. C'était 90% il y a une quarantaine d'années.
Oui, alors ce que tu apprends à l'école est complètement imprégné de religion catholique. Ce que tu regardes à la télé, les vacances, Tout est marqué par le catholicisme sur l'île. C'est vraiment difficile de ne pas être impacté par ça. Alors, ma famille, mes parents, je ne les considérerais pas comme catholiques pratiquants. En fait, en grandissant, ça a été vraiment à nous de choisir comment on voulait pratiquer notre religion. Et j'ai rejoint un groupe de jeunes cathos quand j'avais 13-14 ans. Et j'y suis restée pendant environ 4 ans. J'ai même voyagé avec l'église pour faire du bénévolat en Italie. Et quand j'ai commencé à comprendre qui j'étais, ça a été très compliqué. Parce que je sentais, à travers les enseignements que je recevais, que je ne serais pas acceptée, et quand j'en avais parlé à un responsable de ce groupe aussi.
C'est celui qui t'a répondu que la solution, c'était de prier ?
Je savais que quand tu es catholique, la prière, c'est très important. Quand tu traverses un moment difficile, un moment pénible, alors tu vas prier. C'est comme une sorte de méditation qui t'aide à comprendre ce qui se passe dans ta vie et quelles difficultés t'ont été données. Et peut-être qu'avec l'aide de Dieu, ça te permet de traverser ça. Mais dire à un jeune de 15 ans que la seule solution, ou en tout cas insinuer à un jeune de 15 ans que la seule solution, c'est de prier, et n'offrir aucun soutien, aucun espace pour parler aux gens de ça, parce que ça existe des groupes catholiques à Malte qui accueillent les personnes LGBT. Mais oui, sinon ça devient un conflit entre ta foi et la personne que tu es, comme s'il y avait quelque chose de pas compatible. Alors ma solution, ça a été de quitter cet endroit qui avait été ma communauté pendant 4 ans. Et du coup, j'ai commencé à chercher une communauté, et c'est ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé une communauté queer européenne, internationale en fait, qui me soutient. Et où je n'ai pas besoin d'expliquer quelque chose qui est tellement important pour moi.
En 2010, Mina avait participé à créer le mouvement LGBTI We Are, au sein de son université de Malte. Et quand Mina part pour Berlin, c'est pour s'occuper de la communication du mouvement trans-européen Transgender Europe. Je lui demande si ça a été difficile de faire ce choix de revenir ensuite de cette vie berlinoise à son île d'enfance, à Malte.
En revenant à Malte, j'ai réalisé à quel point le patriarcat est toujours aussi puissant. C'est la culture maltaise, la manière dont les hommes s'expriment en meeting, par exemple, ou le fait que personne ne remette en question la surreprésentation des hommes dans les commissions et les débats. Ou bien le fait que les gens attendent de toi qu'en tant que politicien, tu sois plus masculin et que tu débattes comme un homme. Sinon, personne t'écoute. Et pour certains, c'est évident que des femmes ne soient pas élues parce qu'elles ne sont pas des hommes. C'est inconscient. Si je dis exactement la même chose qu'un homme, je vais obtenir des réactions complètement différentes. En ligne, c'est du sexisme, de la misogynie, de la queerphobie. C'est partout.
Est-ce que tu peux me raconter comment toi, tu as pris la décision de t'engager avec ce parti, de te présenter aux élections européennes ?
Il y a environ 8 ans, j'ai fait mon coming out en tant que lesbienne et j'ai réalisé que d'une certaine façon, j'étais une citoyenne de seconde classe à Malte parce qu'on n'avait aucune loi, pas de place propre et il y avait peu de personnes qui luttaient pour les droits LGBT. Et les Verts ont toujours été un allié naturel dans ces luttes. C'est eux qui ont inscrit en premier des propositions dans leur manifeste, qui ont évoqué le mariage pour tous. Je ne pense pas que je serais entrée en politique si je n'avais pas été queer. Je viens d'un milieu social très confortable. Je suis allée dans une école privée, mes parents ont payé pour mon éducation. D'ailleurs, en ce moment, grâce à ça, j'ai pu retourner vivre chez eux le temps de mener la campagne et je peux me permettre d'être au chômage pour cette période. Donc j'aurais pu continuer ma vie comme ça. Je crois que sans cette expérience LGBT, je n'aurais sans doute pas vraiment été confrontée aux nombreux problèmes de notre société. Faire mon coming out en tant que queer, aller contre cette culture aussi catholique, chrétienne que Malte, et contre toutes ces normes de la société qui sont plutôt oppressives, ça a fait que je devais forcément me politiser. Et j'ai eu une vraie prise de conscience. Je suis devenue plus alerte à propos des croisements entre ce pourquoi je me bats en tant que personne queer et ce pourquoi les autres se battent.
Est-ce que tu peux me parler d'un moment qui a été particulièrement émouvant pour toi dans cette lutte ?
C'est dur quand tu es dans le feu de l'action de te rendre compte que quelque chose d'important est en train d'arriver. Mais une chose à propos du mariage civil, avec d'autres activistes, on était frustrés que la première loi soit celle qui porte sur le mariage civil. Parce que oui, avoir le même droit au mariage, c'est important, mais pendant ce temps-là, en parallèle, il y a des personnes trans qui doivent encore passer par des processus médicaux pour avoir des papiers qui correspondent à leur genre. Donc ces problèmes-là me semblaient plus urgents. Mais les gens ont préféré se concentrer sur la question du mariage homosexuel, parce que c'est sans doute une loi plus sexy à vendre. Mais même si j'étais vraiment frustrée par ce choix de donner la priorité au mariage homosexuel, il y a une leçon à tirer de tout ça. Il y a cette histoire de quelqu'un que je connais qui a fait son coming out au moment où le projet de loi était en train d'être voté. Parce que sa mère a dit « Je vais aller faire la fête ce soir à la Valette. » Et elle a demandé « Pourquoi tu vas faire la fête à la Valette ?»« Eh bien, parce qu'ils vont célébrer le mariage homosexuel ce soir. » Alors elle a su, parce que sa mère allait célébrer le mariage pour tous, que c'était possible de faire son coming out. Et je pense que ce type de situation montre que le changement légal a aussi apporté un peu de changement social. Parce qu'être gay ou lesbienne n'est plus perçu comme un tabou ou quelque chose que tu dois cacher. C'est devenu un sujet de discussion et du coup, tu pouvais savoir avec qui tu pouvais être ouvert, à qui tu pouvais dire que tu étais queer. Et ça a été extraordinaire d'entendre d'autres histoires comme ça. Parce que grâce à cette visibilité soudaine, les gens pouvaient enfin être eux-mêmes.
Est-ce que tu peux me parler de ton choix de passer de l'activisme citoyen, on va dire, civique, à la politique ? C'est une décision qui ne doit pas être simple à prendre.
Je suis allée à un événement de la Fédération des Jeunes Verts Européens sur la question de la démasculinisation de la politique. On a parlé du besoin d'avoir plus de femmes en politique, plus de personnes trans dans les milieux politiques. Et j'ai aussi eu la chance de rencontrer des politiques comme Terry Reinke. Et de parler avec elle de son expérience de jeune femme en politique, ça a changé mon regard. J'ai réalisé qu'il y avait vraiment des opportunités de changement en politique.
Terry Reinke, vous savez, on l'a entendu tout à l'heure, je vous propose qu'on revienne un peu sur son parcours un peu plus tard dans l'émission.
Elle m'a dit, écoute, si ça te tente, alors lance-toi, et si tu fais une campagne une fois et que tu te rends compte que t'aimes pas ça, au pire, tu ne le referas plus jamais. Mais si tu fais une campagne et que tu réalises que c'est là que tu te sens à ta place, que tu peux provoquer des changements et que tu peux avoir un impact sur la vie des gens, alors au moins tu découvres ça maintenant dans ta vingtaine, et pas plus tard, et ça, c'était génial. Alors j'ai parlé avec les jeunes verts de Malte et je leur ai demandé « Est-ce que vous me soutiendrez si je me présente comme candidat aux élections du Parlement européen ?» Et ils étaient très heureux de me donner leur appui et très enthousiastes d'avoir un jeune candidat pour les Verts à Malte.
On entend là le son d'une de ses vidéos de campagne en maltais. Mais sa vidéo qui a le plus circulé, c'est celle-ci. And parties are scared to say anything when it comes to abortion and reproductive health. La vidéo s'appelle One Last Taboo, un dernier tabou, et elle a été publiée par Mina le 15 février. Mina appelle à un débat apaisé sur la question de l'avortement, qui est toujours illégal dans le pays, même quand la vie de la mère est en danger. Trois jours après la publication de cette vidéo, l'ancien candidat d'Alternative démocratique, Arnold Cassola, qui lui est contre le droit à l'avortement, démissionne du parti et se présente comme candidat indépendant, à cause, dit-il, de son désaccord avec Mina sur cette question de l'avortement. Beaucoup à Malte considèrent que se positionner sur ce dossier sensible de cette façon était pour Mina un suicide politique. Je ne sais pas si ça a joué, mais c'est vrai que les deux grands partis historiques, le Parti travailliste et le Parti nationaliste, pèsent encore beaucoup et c'est eux qui ont remporté ces élections européennes. Le Parti travailliste obtient 4 sièges, le Parti nationaliste 2 sièges avec 37,9%. Et Alternative démocratique Les Verts, le parti de Mina, seulement 0,7%.
Donc je pense que c'est un résultat décent parce que j'ai commencé la campagne à partir de rien en novembre.
Mina dit qu'il va un peu se reposer maintenant, qu'il va continuer le travail depuis son île. Je pense que son témoignage pourrait intéresser Claire, qui est elle aussi passée de l'engagement citoyen à la politique. On va l'écouter après ce disque, choisi par Djoubaka. Tiptoes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough.
I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
Sur France Inter ou alternativement vous êtes sur la première de la RTBF dans une émission qui s'appelle Full Continental et où il est question de jeunesse européenne. Rien à voir, mais dimanche dernier, j'ai été invitée à déjeuner chez un copain. Il avait fait du poisson au four. Déjà, c'est très impressionnant, je trouve, de savoir faire du poisson. Mais en plus, il nous a raconté qu'il avait adhéré à un système de vente directe de poissons bioéquitables, livrés presque chez lui et moins cher qu'en magasin. Il nous expliquait qu'il n'était pas loin de connaître le petit nom du poisson, ou du moins celui de son pêcheur. Comme souvent, cette conversation a dérivé sur les questions d'écologie et donc de fin du monde. J'y ai repensé en entendant Michel Vinocq, historien, qui était sur France Culture récemment.
Nous vivons une période sans précédent, je dirais, qui est un bouleversement total, d'abord avec la mondialisation et la révolution numérique. Ces deux facteurs changent absolument tout, aussi bien le système de communication que l'économie, que la société. Où allons-nous ? Et c'est la grande question à laquelle il est difficile de répondre. Alors vous avez la version catastrophiste, nous allons à l'abîme, et puis on n'entend plus beaucoup les prophètes du progrès. Mais il faut s'entendre...
Ça dépend ce qu'on entend.
Exactement.
Par progrès, parce
exactement.
Que par exemple, là précisément, du côté de l'écologie politique, on pourrait avoir un relais voilà. intéressant. Au fond, le progrès ne serait-ce pas précisément enclencher véritablement la transition écologique ?
Exactement. Et c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de révolution copernicienne. C'est que le progrès, ce n'est plus le progrès matériel, mais un progrès qualitatif.
Le grand chantier, repenser le progrès, on peut peut-être dire qu'il a commencé. Pour ceux qui ne savaient pas, il y a eu récemment des élections européennes, voilà ce que je lis sur les résultats dans le Guardian. Les Verts d'Europe ont enregistré leur plus haut score jamais atteint au Parlement européen, gagnant 69 sièges. De manière plus spectaculaire, les Verts ont doublé leur score en Allemagne pour terminer à la seconde place, derrière les conservateurs de centre-droit, de la CDU, d'Angela Merkel. Mais les partis des Verts ont également été deuxième en Finlande, avec 16% des votes, et troisième en France et au Luxembourg. Leur performance est également remarquable en Belgique et aux Pays-Bas. Et ils ont gagné leur premier siège en Irlande en 20 ans d'existence. Mais ça n'a pas été rose partout. Les partis verts ont seulement gagné 2 sièges dans toute l'Europe centrale et aucun au sud et à l'est de l'Europe. Parce qu'à côté de la vague verte, il y a aussi eu une vague brune, dont on parlera un peu la semaine prochaine. Dans cette émission ici, on a eu envie de vous proposer d'écouter des portraits de jeunes femmes qui, à l'échelle de leur quotidien, de leur famille, de leur commune ou du continent, repensent donc cette notion de progrès. Pour ceux qui parmi vous sont attentifs ou fidèles, et je vous salue, je vous remercie, je suis désolée d'ailleurs de le faire de façon collective comme ça, plutôt qu'individuellement, vous qui nous écoutez souvent, vous vous souvenez peut-être de Claire. Claire, on l'entendait il y a quelques semaines, elle parlait notamment des débuts de son engagement. Et elle avait rejoint le mouvement Extinction Rébellion, qui a bloqué des ponts à Londres. Bref, tout ça, c'était dans l'épisode 36. Quand je la retrouve, elle me dit qu'elle fait aussi partie des jeunes écolos, qu'en parallèle des Laïnes, ses actions pacifiques de désobéissance, elle est aussi dans l'exécutif du mouvement de jeunesse de l'écologie politique en France. Et elle vient de participer à sa première campagne. Elle dit que c'était plus intense que ce qu'elle imaginait, qu'elle a tracté jusqu'à la dernière minute, et qu'elle aussi, le soir des élections, la veille de notre rencontre, elle avait fait la fête.
Le bracelet rouge, c'est le truc d'entrée qu'on avait hier pour entrer dans la soirée électorale des Verts.
Et après, t'es restée jusqu'à 3h du matin.
Ouais, 2-3h, ouais. On a pas mal discuté de la suite à donner à ces résultats-là. On s'attendait pas à ce que ce soit... Enfin voilà, c'était au-dessus de nos espérances. En même temps, c'était toujours teinté d'une espèce d'inquiétude parce que le Rassemblement National fasse un score aussi élevé, ça montre à quel point les combats sont complètement devant nous encore. En plus, la tête de liste du Rassemblement National, il a notre âge, quoi. Et il faut absolument qu'on parvienne à incarner une jeunesse différente. Le risque, c'est que la politique devienne... une pure pratique de gestion des crises, parce que c'est vers ça qu'on va, c'est vers une multiplication des crises et des difficultés sociales. C'est des choses qu'on voit déjà, les gilets jaunes, pour moi, c'est les prémices d'un 21e siècle qui risque d'être extrêmement compliqué pour les plus vulnérables.
Ton père, il militait auprès des gilets jaunes. Est-ce que tu sais pour qui il a voté et ce qu'il a pensé de ses résultats?
Alors, certainement sous mon influence, il a voté écolo.
Elle dit que ce qui lui plaît chez les Verts, c'est que de nombreux élus sont d'anciens militants, notamment dans les communes, comme dans le 10e arrondissement de Paris. Claire me dit qu'elle est fan de Léa Vaza, 28 ans, élue écolo de ce quartier parisien.
Donc là, je viens d'arriver à la mairie du 10e. C'est une grande, grande bâtisse blanche, assez impressionnante, mais qui est en travaux en ce moment.
Alors, je lui propose d'en profiter pour aller la rencontrer et de tout enregistrer.
L'intérieur, c'est pareil, c'est extrêmement... c'est vraiment assez somptueux. Et du coup, en termes d'appropriation des institutions par le citoyen, je pense que ce genre d'architecture aide pas forcément, en fait. Salut Caroline. Du coup, là, on est posé dans le bureau de Léa. Il fait beau, il y a du soleil qui passe par la fenêtre. Ouais, moi, ce que je disais à Caroline, c'était que ce qui m'avait un peu décidé à prendre ma carte et à militer dans un parti, c'est que chez les écolos, on voit plein d'exemples d'élus locaux, militants. Et du coup, dans les exemples que j'ai cités, t'étais parmi ceux-là. Comment t'es arrivée là aujourd'hui à être élue dans le 10e?
Moi, j'avais pas trop prévu de faire ça. J'étais en fin d'études. Et en fait, j'étais à Paris et en stage, donc en galère. Et en fait, j'ai commencé à squatter avec le collectif Jeudi Noir dans un immeuble qui était aussi occupé par le droit au logement. Et ça a été vraiment mes premiers pas militants dans ces milieux-là, et un peu par nécessité, quoi. Et là, j'ai découvert le monde militant, l'engagement politique. On m'a proposé d'être candidate sur des listes Europe Écologie Les Verts parce qu'ils avaient ouvert une place en disant c'est pour une femme d'ouverture, comme on dit, donc qui n'a jamais fait de politique.
Je me souviens, quand tu parlais de du hall de la mairie et tout, moi je me suis souvenue le lendemain de l'élection, où je me suis pointée dans la mairie, où j'avais, j'étais élue, quoi. Et en fait, j'arrive dans le hall et j'ai cet escalier magnifique, monumental, en face de moi, qui s'ouvre en deux, comme ça, et là, avec le grand tapis rouge, et là, je me suis arrêtée, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui s'est passé?
Okay, je ressors en
voilà,
fait.
Voilà, parce que c'est là vraiment que j'ai bossé pendant 6 ans et qu'est-ce que c'est que ça?
Il a fallu quand même qu'ils insistent pas mal pour... ils m'ont proposé plusieurs fois. C'est sacralisé, quoi, la posture de l'élu qui sait tout. Moi, je me sentais pas du tout comme ça. Mais par contre, en tant que militante du coup sur la lutte contre le mal-logement, on allait gratter en permanence à la porte des institutions, la mairie, l'État le ministère, les députés. Enfin bon, bref, en me disant, dis donc, vous voudriez pas racheter ce machin-là qui est vide pour en faire du logement social ou arrêter de faire Nawak avec... les agences immobilières, les lois diverses et variées. Donc, à un moment, on se dit, peut-être qu'en fait, il y a moyen de faire des trucs. Si ça se trouve, on sait peu à quoi sert un élu, même l'élu de base, j'ai envie de dire, le plus proche du citoyen qui est l'élu local. Et donc, c'est quand même c'est un grand pas parce qu'il faut prendre conscience de ce qu'on peut faire. Mais bonne nouvelle, on peut faire des trucs.
Attends, j'enchaîne. Peut-être tu peux nous parler de juste un ou deux projets que tu as pu mener à bout pendant ton mandat, qui t'ont tenu à cœur et qui te paraissent un peu symboliques de ce que tu as voulu faire pendant ce mandat.
Bah, je peux parler du premier projet que j'ai pris en main en arrivant dans ce mandat et qui en fait a abouti il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est aussi un premier apprentissage, c'est que le temps administratif et le temps de la vraie vie, c'est pas les mêmes. Mmh. Et en fait, c'était un projet où dans un immeuble de logements sociaux, la ville avait prévu de faire 500 mètres carrés de grande surface commerciale. Et les habitants étaient mobilisés, mais ça faisait 10 ans qu'ils étaient mobilisés, ils demandaient autre chose et de respecter un peu le caractère populaire et solidaire du quartier. Et en fait, moi, je lui ai mis complètement les pieds dans le plat. Je lui ai dit, ah bah oui, tiens, et si on faisait autre chose? Et en fait, ça a foutu le bazar. Et tout le monde a été obligé de se remettre autour de la table. Et à la dernière minute, vraiment, on était en train de construire le sol en béton. Mmh. On a construit aussi des cloisons. Mmh. Et on a séparé cette grande surface en 5 lots qui ont été, en gros, soumis complètement à la décision des habitants, qui ont fait un grand travail sur le quartier qui, pour voir qu'est-ce qui manquait, en fait. Et donc, ils sont tombés d'accord sur une série de grands axes prioritaire, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, à force de travailler, d'aller chercher les initiatives qui allaient bien pour répondre à ces besoins-là, on a une halle alimentaire, une association de solidarité pour les migrants, une librairie, une boutique solidaire Emmaüs. Mmh. Voilà, donc c'est
trop cool.
Ouais, voilà, c'est quand même chouette de voir ça, mais ça met du temps et c'est voilà. Continuer toujours vivre dans des squats, à m'engager dans des squats, donc faire vivre en fait des espaces d'autogestion dans lesquels on expérimente aussi nos règles de vivre ensemble, c'est quoi notre perception de la solidarité, comment est-ce qu'on deal avec nos propres contradictions, avec voilà, des enjeux, enfin bon, on essaye plein de choses et ça inspire aussi beaucoup du coup la relation que j'ai à l'institution et la façon dont je vis ce mandat et dont je le fais vivre aussi aux habitants du 10e.
Et en écoutant Léa, on s'est dit que ce serait bien de faire une émission plus longue sur les squatteurs du continent. Si vous en connaissez, écrivez-nous. Mais donc, il y a 2-3 ans, Claire a décidé d'arrêter de prendre l'avion et elle compte adapter ses études et ses projets de vie à ce choix. Ce qui fait qu'elle passe ses vacances en Europe et qu'a priori, son terrain de jeu, de vie, ce sera le continent européen. Par ailleurs, Claire n'achète jamais de fringues neuves. Je lui demande avec quoi elle s'habille.
C'est que des choses qui me viennent de ma grande sœur, de mes cousines ou bien de friperies ou de magasins d'occasion. Et c'est totalement jouable et même plutôt intéressant d'un point de vue budget, on va dire.
Mais est-ce que ça veut dire que du coup, c'est une génération un peu austère?
Ah non, mais absolument, absolument pas. Là, suffit d'aller sur les grèves pour le climat et les marches pour le climat, suffit d'aller dans une AMAP, suffit d'aller dans un éco-quartier pour se rendre compte que en fait, le monde qu'on propose, il est mille fois plus joyeux, il est mille fois plus plein de couleurs. Il est... Donc non, on n'est absolument pas une génération austère. Et du coup, là, ce qu'il faut réinventer, c'est la notion même de bonheur et la notion même de progrès. Il faut les penser de manière complètement différente à ce qu'on a fait jusqu'à présent.
Mais pour conclure, pour imaginer ce que pourrait être une prochaine étape pour Léa, pour Claire, pour Mina, on revient à Terry Renke, la plus jeune élue du Parlement européen. C'était en 2014, elle avait 27 ans. J'étais allée la voir dans son bureau pour un café l'année dernière et elle m'avait raconté sa première visite au Parlement qui datait de ses 20 ans. Elle se souvient d'avoir été alors marquée par les tenues vestimentaires.
Bien sûr, il y a des gens qui portent des costumes, mais il y en a aussi qui n'en portent pas.
I felt that...
Et je suis arrivée ici, j'avais cet énorme sac à dos, je me suis dit que je ne serais pas à ma place, et j'avais un petit peu peur, et j'avais pas d'endroit où laisser le sac à dos. Et en fait, quand je suis passée par le portail de sécurité, personne ne m'a rien dit, personne n'a fait attention à mes habits un peu usés et à cet énorme sac. Pour moi, ça a vraiment été un moment très positif, parce que j'ai senti que c'était aussi mon espace, que c'était ma maison, mon espace démocratique. Et je pense que pour la génération de mes parents, l'Union européenne, c'est devenu surtout un projet économique. C'est le marché intérieur, les possibilités d'échanges commerciaux, et pour une grande partie de la population, sortir de la pauvreté finalement. Mes parents viennent tous les deux de familles plutôt populaires, de classe moyenne. Mon père a grandi dans une ferme et on se disputait toujours à la maison. Ils ne partagent pas forcément mes opinions, donc ça créait beaucoup de conflits au début. Maintenant, je pense qu'ils sont plus apaisés par rapport à toute cette histoire, donc ça leur va. Mais ils n'étaient jamais très enthousiaste, il ne me soutenait pas beaucoup. Mais je pense que c'est une part importante de mon histoire parce que, pour moi, surmonter le scepticisme de mes parents, ça fait partie du processus d'émancipation.
Terry Renke s'est fait connaître du grand public il y a un peu plus d'un an en témoignant dans l'hémicycle peu avant le mouvement MeToo. Elle racontait une agression dont elle-même avait été victime. Terry fait partie donc des 37% de femmes au Parlement européen. Je lui demande comment elle s'est sentie à cet égard-là en arrivant.
Un truc dont je suis devenue très consciente, c'est ma voix, depuis que je suis en politique. Et je pense que c'est un phénomène contre lequel beaucoup de femmes politiques luttent. Le fait que notre voix est considérée comme trop haute. Et je pense que inconsciemment, quand je parle maintenant, je parle beaucoup plus bas que quand je parle à un ami, par exemple. Quand je fais des discours, ma voix est complètement différente de ma voix normale. Ça, c'est quelque chose qui a changé sans aucun doute. Moi, je me suis toujours dit que j'avais été élue à ce poste. Donc, soit ils m'acceptent comme je suis, soit je fais un scandale. J'ai travaillé sur un gros dossier. La directive sur les travailleurs détachés, je connais même le mot en français parce que c'était tellement un sujet sensible en France, alors qu'en Allemagne, pas tant que ça malheureusement. Il y a des moments frustrants dans ce travail, mais j'ai travaillé au Bundestag, le Parlement allemand avant, pour un député d'opposition, et je me sentais beaucoup plus frustrée qu'ici. Parce qu'ici, au Parlement européen, même quand on vient d'un petit groupe politique, en fait, on peut vraiment influencer la législation. C'est quelque chose pour lequel il faut se battre. Ces droits ne sont pas donnés. Il faut aller dans la rue, entrer en politique, s'engager pour les défendre. Je pense que c'est un changement très important d'état d'esprit qui est en train de se passer en ce moment.
Je trouve que Claire le rappelle bien, la montée des Verts est accompagnée de la montée des Bruns, notamment dans le nord de mon pays. Et je repense à un jeune du Vlaams Belang, d'extrême droite, que j'avais interrogé il y a quelques années. J'aimerais bien retourner le voir. Avant ça, dimanche prochain, on sera en Irlande, avec des jeunes qui ont voté pour le Brexit, et d'autres qui, par les histoires de leurs parents, veulent éviter le retour d'une frontière physique entre nord et sud. Par ailleurs, peut-être que certains ont vu passer l'information, dans beaucoup de pays d'Europe, les électeurs roumains n'ont pas pu accéder aux bureaux de vote. La société civile, les journalistes militants font un travail assez épatant en Roumanie et si vous avez l'occasion, si j'étais vous, j'irai au European Lab Forum de Cluj qui aura lieu les 13 et 14 juillet et on pourra rencontrer plein de jeunes formidables qui s'engagent sur ces territoires. Merci à tous ceux qui ont témoigné dans cette émission. Merci à Benjamin Riquet à la réalisation, à Martine Messonnier au montage, à Mathilde Picard pour la traduction et à vous tous pour votre écoute. À dimanche prochain et d'ici là, vous savez où nous trouver. Full Continental, c'est sur franceinter.fr, sur le site de la RTBF et sur Facebook, Twitter et Instagram. Passez une journée exceptionnelle.